Chapitre 12. Des hauteurs contemplées dans le chapitre précédent, nos regards plongent maintenant dans les profondeurs de la folie et de l'aveuglement humain tels qu'ils sont manifestés chez les pharisiens. Dans ce chapitre, nous voyons le Seigneur très clairement rejeté par les chefs des Juifs et non plus seulement par les villes de Galilée. Dans les deux premiers cas, le sabbat est au centre du débat. Le Seigneur justifie l'action de ses disciples pour quatre raisons au moins. Versets 3 à 8. Lorsque David, le roi oint de Dieu, était rejeté, ses besoins ont passé avant toute institution religieuse, et ceux qui étaient avec lui ont été associés à lui en cela. Maintenant, le fils de David, plus grand que lui, était rejeté. Est-ce qu'alors les besoins de ses disciples ne devaient pas être couverts ? Même si les règlements concernant leur sabbat étaient en frein. Mais deuxièmement, le temple avait pris le pas sur le sabbat, car les sacrificateurs avaient toujours travaillé les jours de sabbat, et Jésus déclarait être plus grand que le temple. Dieu était effectivement en Christ dans une mesure infiniment plus complète qu'il n'avait jamais été dans le temple. Troisièmement, il y avait ce passage sur la miséricorde en Osée 6, auquel le Seigneur avait fait allusion précédemment. Il s'appliquait dans ce cas. Et quatrièmement, Jésus affirmait que, comme fils de l'homme, il était Seigneur du sabbat. En d'autres termes, que le sabbat n'avait aucun pouvoir contraignant sur lui. Il l'avait institué et pouvait en disposer comme il le voulait. Dans le second cas, le Seigneur répond à leur objection en faisant appel à leurs propres habitudes. Ils n'avaient aucun remords de travailler un jour de sabbat pour sauver une brebis. Qui était-il donc pour s'opposer à ce qu'il exerce la miséricorde à l'égard d'un homme le jour de sabbat? Le Seigneur l'exerce sans tarder. Mais la dureté de leur cœur était telle que sa miséricorde fit seulement monter en eux des pensées de meurtre. Dès ce moment, ils décidèrent de le faire mourir. Jésus commence alors à mettre fin au témoignage qu'il se préparait à étouffer dans la mort, défendant à ceux envers lesquels il exerçait encore sa miséricorde de rendre son nom public. Matthieu cite la magnifique prophétie d'Ésaïe 42 pour montrer comment elle a été accomplie en lui. Une partie doit encore avoir son accomplissement à sa seconde venue, car il n'a pas encore produit le jugement en victoire. Mais il a rencontré, sans contestation, ni cri et sans écraser ses ennemis, la haine et la réjection amère auxquelles il a été confronté à sa première venue. Rien n'a moins de valeur qu'un roseau froissé, et rien n'est plus rebutant à l'odorat qu'un lumignon qui fume. Les pharisiens étaient semblables à l'un et à l'autre, mais il ne les brisera pas, ni ne les éteindra, avant que le temps du jugement soit là. En attendant, les nations apprennent à espérer en son nom. En Ésaïe 42, comme souvent dans les passages de l'Ancien Testament, les venus ne sont pas distingués. Mais maintenant nous discernons clairement que les deux s'y trouvent comprises. À cette époque, Jésus venait pour exercer la miséricorde et non pas le jugement. Rejeté par les chefs du peuple, il se tournerait vers les nations et déverserait sur elles la miséricorde. Ce passage l'indique clairement. N'est-ce pas d'un intérêt immense pour nous qui faisons partie des nations ayant espéré en son nom? Chez les pharisiens, nous avons vu la haine allant jusqu'au meurtre, et nous avons trouvé chez Jésus une douceur et une humilité telles qu'il est amené à suspendre tout acte de jugement et à accepter leur méchanceté sans contestation ni protestation. Matthieu relate maintenant le cas d'un homme rendu à la fois aveugle et muet par un démon. Jésus lui rend la vue et la parole en chassant le démon, et les foules, dans une profonde admiration, commencent à se demander s'il n'est pas le vrai fils de David. Témoins de cela, les pharisiens sont acculés au grand moyen, et ils répètent plus hardiment encore l'affirmation blasphématoire que la puissance qu'il détient est celle de Satan. Le blasphème qu'ils avaient prononcé précédemment, au chapitre 9, verset 34, étaient restés sans réponse. Mais cette fois, le Seigneur relève leur défi. D'abord, il les prend sur le terrain de la raison. Leur accusation impliquait une absurdité. Car si Satan chassait Satan, il détruirait son propre royaume. Elle était aussi diffamatoire à l'égard de leur propre fils qui prétendait chasser des démons. Mais ensuite, il leur donne la vraie explication. Il était ici-bas comme homme, agissant par l'Esprit de Dieu. Comme tel, il avait lié Satan, l'homme fort, et maintenant il arrachait à son pouvoir ceux qui n'avaient été que ses biens. C'était une nouvelle preuve évidente que le royaume était au milieu d'eux. Cela caractérisait aussi très clairement la situation. Ne pas être d'une manière déterminée du côté de Christ et ne pas assembler avec lui, c'était être contre lui et dispersé. Le Seigneur est alors amené à démasquer la nature véritable de leur péché, qui était au-delà des limites du pardon, malgré le fait que toute sorte de péché peut être pardonné. Dans le Fils de l'homme, Dieu leur était présenté objectivement. S'ils parlaient contre lui, ils pouvaient pourtant être amenés, par l'opération de l'Esprit, à la repentance et être ainsi pardonnés. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, par qui seule la repentance et la foi sont opérées dans l'âme, c'est se placer dans une position désespérée. C'est refuser pour soi-même la repentance et la foi, verrouiller et barrer la seule porte qui conduit au salut. Le triste fait est que ces pharisiens étaient des arbres absolument mauvais, une race de vipères, et leurs méchantes paroles n'étaient que l'expression de la méchanceté de leur cœur. Dans les versets 33 à 37, le Seigneur démasque ces cœurs de cette manière et déclare qu'ils seraient jugés par leurs paroles. Si les hommes doivent rendre compte au jour du jugement, même de paroles oiseuses, que mériteront des paroles méchantes telles que celles-ci ? En ce jour, par leurs paroles, ils seront entièrement condamnés. La question des pharisiens, rapportée au verset 38, manifeste qu'ils étaient moralement aveugles et insensibles, autant que corrompus et méchants. Ils demandent un signe, ignorant, soit par indifférence, soit volontairement, tous ceux qui avaient été donnés. Nous en avons signalé 5 dans le chapitre 8 et 5 dans le chapitre 9, sans compter ceux qui sont rapportés dans notre chapitre. Étant méchants et adultères, ils ne pouvaient pas percevoir le signe le plus évident. Aussi, aucun autre ne serait donné, sinon le plus grand de tous, sa propre mort et sa résurrection qui avaient été typifiées dans l'histoire remarquable de Jonas. La génération qui rejetait le Seigneur avait été mise en présence de plus de signes que toutes celles qui l'avaient précédée. Jonas et sa prédication avait été un signe aux Ninivites. À une époque plus reculée, Salomon et sa sagesse en avaient été un à une reine du Midi, et il s'en était suivi des résultats remarquables. Pourtant, Jésus était rejeté. Or, il est infiniment au-dessus de tous. Dans notre chapitre, il parle de lui-même comme étant plus grand que le temple, plus que Jonas, plus que Salomon. Remarquons aussi qu'il souligne que tant Jonas que Salomon avaient été des signes aux nations. Bien qu'étant des serviteurs de Dieu en Israël, leur renommée s'était étendue respectivement au nord en direction de Ninive et au midi vers Sheba. Ces gentils avaient eu des oreilles pour entendre et un cœur pour apprécier, alors que les juifs pharisaïques, qui entouraient le Seigneur, étaient aveugles et farouchement opposés jusqu'au point de commettre ce péché impardonnable. Quelle serait la fin de cette génération incrédule ? Le Seigneur nous le dit dans les versets 43 à 45. L'esprit immonde d'idolâtrie qui les avait possédés dans leur histoire passée était effectivement sorti d'eux. Christ, celui qui révèle le vrai Dieu, aurait dû occuper la maison. Mais il le rejetait. Cet esprit immonde allait alors revenir avec cet autre esprit plus méchant que lui-même. Dans les derniers jours, sous l'Antichrist, cette parole du Seigneur se réalisera. La génération incrédule des Juifs adorera l'image de la bête et sera asservie à des puissances sataniques terriblement fortes. Lorsque le jugement s'abattra, les Juifs apostats sur qui il tombera seront pires que tous ceux qui les ont précédés. Cela sera sans doute également vrai des générations des nations. Le chapitre se clôt sur l'incident significatif concernant la mère et les frères de Jésus. En fait, ils venaient dans un mauvais esprit, Nous le voyons en Marc 3, versets 21 et 31. Mais ce n'est pas ce qui est souligné ici. Le Seigneur se sert de leur intervention pour désavouer une relation purement naturelle et pour montrer que ce qui compterait dorénavant, c'était une relation de nature spirituelle. De cette manière figurative, il mettait de côté pour le moment l'ancien lien formé par sa venue comme fils d'Abraham, fils de David, et indiquait que le lien reconnu désormais était celui constitué par l'obéissance à la volonté de Dieu. Les Juifs comme peuple l'avaient rejeté, et maintenant lui les désavoue. Il reconnaît ses disciples comme étant dans une relation vraie avec lui, car malgré leur faiblesse, il s'attachait à faire la volonté de son Père qui est dans les cieux.